La communauté des Béatitudes est née en 1973. Deux couples ont décidé de vivre ensemble. C'était pas exceptionnel à l'époque parce qu'il y avait un certain nombre de communautés qui prenaient aussi corps à ce moment-là. Hein. Et on est là après 68, hein, donc il y avait une vitalité, hein, des perspectives nouvelles qui s'ouvraient, etc. Et donc dans ces deux couples, trois étaient protestants et une était catholique. Et celui qu'on considère comme le fondateur, Ephraim, avait déjà fait une formation en vue d'être pasteur. Et il côtoyait des milieux protestants qui étaient très marqués par cette recherche des racines juives de la foi chrétienne. Hein ? Il y avait tout un groupe de pasteurs qui se réunissaient, hein, ce qu'on appelait l'union de charme, l'union de prière de charme, qui se réunissaient pour découvrir eh bien, les racines chrétiennes, les racines juives, pardon, de la foi chrétienne. Et c'est beau parce que, au fond, de son côté, l'Église catholique elle-même était dans une grande marche dans ce sens. Pourquoi l'Église était dans une grande marche dans ce sens de la recherche de ses racines juives? Tout simplement parce qu'on n'était quand même pas très loin, en 1973, du Concile Vatican II. Et on n'était pas très loin de la publication d'un décret qui s'appelle Nostra Aetate, sur lequel je vais m'arrêter hein, par la suite, et qui, je dirais, c'était un pas de géant accompli, inviter les chrétiens à scruter hein, le mystère de l'Église et en scrutant ce mystère de l'Église, découvrir les racines juives de la foi chrétienne. Donc, on peut dire que notre démarche communautaire s'inscrivait bien à la fois dans ce que vivait un certain milieu protestant, mais évidemment dans ce que vivait un milieu catholique issu de Vatican II. Hein. Vous savez, c'est à partir de là qu'on va voir au niveau théologique, au niveau biblique, etc., on va avoir beaucoup de manifestations, de recherches communes. Hein. Toute l'exégèse va évoluer à ce moment-là. On va découvrir tout un potentiel dans la tradition juive pouvant éclairer même l'écriture. Hein. Par exemple, c'est là qu'on va commencer à découvrir la richesse des Targoums. Hein, ces écrits araméens, vous savez qu'au temps de Jésus, et même avant, puisque au retour d'exil, quand les Israélites reviennent d'exil et s'installent de nouveau sur la terre, progressivement, l'hébreu est perdu comme langue. Et ils parlent une langue qu'on appelle l'araméen d'Empire, qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Et quand ils vont à la synagogue, on lit le texte en hébreu, mais ils n'y comprennent plus rien. Un peu comme si nous, on entendait le texte en latin. Hein, on n'y comprendrait pas grand-chose. Et devant ça, il va y avoir une pratique qui va se faire dans les synagogues. Après la lecture du texte en hébreu, eh bien, il y a quelqu'un qu'on appelle le méturgomen qui va se mettre à côté pour bien montrer la différence. Le texte saint, le texte sacré, il est en hébreu, lui. Mais il va se mettre à côté et il va traduire en araméen ce qui a été lu. Hein, sans regarder le texte, pour bien montrer une différence. C'est une traduction, mais c'est une traduction très belle parce que c'est une traduction qui est adaptée au public. Donc, quand il va traduire des passages bibliques où on ne sait pas très bien de quoi on parle et tout ça, il va faire un peu de glose, hein, il va ajouter des éléments. Or, tout ça, ça existe dans la tradition juive et ça a formé ce qu'on appelle les targoumines, hein, donc ces écrits araméens du texte biblique. Et on s'est aperçu que, du temps de Jésus, qu'est-ce que les disciples, les apôtres entendaient dans les synagogues? C'était ces textes qu'ils comprenaient. Et on s'est rendu compte que combien ces textes pouvaient nous aider à éclairer l'Ancien Testament, mais aussi à éclairer le Nouveau Testament. Hein? Quand subitement un Paul dit « Le Christ est notre rocher qui nous suit partout », je me dis « Pourquoi il nous sort ça ?» Mais parce que derrière, il y a une tradition hein, qui disait que dans le désert, le rocher qui avait été frappé hein, et de l'eau avait jailli, hein, eh bien, il accompagnait le peuple partout. Ben, pour lui, le Christ, source de vie, rocher, tout ça, pour Paul, c'est évident. Hein, ça nous permet de comprendre beaucoup de traditions. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Hein, et donc, théologiquement, surtout au niveau de l'exégèse, après Vatican II, on va commencer à creuser hein, ce lien. Et c'est dans ce contexte-là que je dirais aussi...